R22 tout le monde. Antenne Jeff Clack.
Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à la médiathèque. François Sagan, vous reçoivez une partie de l'équipe de Jeff Clack et des invités du numéro 5, donc Marielle Massé, qui a écrit Sidéré et considéré récemment, qui vient de publier chez Verdier. Ainsi que Youssef Aliem, dont vous trouverez les créations dans le numéro 5. Consacré, comme le veut la comptine de Les Trois Petits Chats, si on suit le numéro 5, on est donc sur la course à pied. Voilà, je laisse la parole à Jeff Clack. Merci d'être venu ce soir.
Eh bien, merci la médiathèque. On est ici donc pour le lancement de notre cinquième numéro. En vérité, c'est un pré-lancement, puisque le numéro sort le 27 septembre. Il marche ce micro ou ça sert à rien que je parle dedans? Oui, d'accord. Et voilà, donc c'est donc la médiathèque François Sagan nous a invités en nous laissant un peu carte blanche sur la programmation. Et nous, on avait un peu envie, parce qu'on sait aussi que c'est une des préoccupations de la médiathèque, on avait un peu envie de discuter avec vous autour d'un des axes de la revue, mais dont on parlera plus tard, qui est un des axes autour des trajectoires de migration. Et de la fuite, de la, voilà, la migration et de la fuite. Donc nous d'abord, à l'origine, donc, on aime à se définir comme un collectif. Avant ce qu'on produit, on se dit qu'on est d'abord un collectif. On est un collectif politique qui produisons une revue, un CD de création sonore et un site internet. On existe depuis donc 2014, c'est Marabout, le premier numéro qui est sorti en 2014. À l'origine de Jeff Clack, est-ce qu'il fait un peu quelque chose qu'on appellerait une ligne éditoriale, bien qu'elle ne soit pas très nette dans Jeff Clack, il faut bien l'avouer. Mais en tout cas, notre préoccupation était d'arriver à produire un contenu politique, critique, engagé, des questions qui nous concernent et qui sont un peu ancrées, qui font partie de nos préoccupations, nous, dans le collectif, mais pas de manière frontale et en mélangeant les genres, disons, voilà, les genres d'écriture, donc que ce soit l'écriture littéraire, que ce soit l'écriture journalistique, de l'enquête, du reportage, bon voilà, tout un tas de genres différents, donc, en mélangeant des points de vue, en mélangeant des auteurs qui ne sont pas du tout tous habitués à écrire dans Jeff Clack, et en s'aidant de différents supports. Donc en fait, la revue est composée de textes, mais aussi composée de visuel, d'un gros travail visuel que vous êtes en train de regarder normalement derrière moi, si tout va bien, oui. Et de son, donc ce que vous venez d'entendre avec le CD qui est à l'intérieur de la revue. Tout ça dans l'idée un peu de par le montage, la composition et l'assemblage, de produire des idées. Et des idées de la pensée sur des sujets qui nous préoccupent. Donc ça, c'est un peu notre postulat de départ et notre envie de départ, notre intention de départ, disons. On avait aussi au départ une contrainte qui fait que cette contrainte perdure et qui détermine nos thématiques. C'est la contrainte de la comptine des Trois Petits Chats. Peut-être que vous connaissez, c'est la comptine des enfants, Trois Petits Chats, Chapeau de Paille, Paillasson, tout ça. Donc nous, on a commencé par Marabout. Marabout était le premier numéro qui est sorti donc en 2014 et qui traitait de la magie, de la sorcellerie, de nos rapports aux croyances. Ensuite, le deuxième numéro, c'était Bout de ficelle. Je vous la fais un peu rapide parce que les numéros sont denses, donc il y a beaucoup de choses de traiter dedans, mais là, je vous le dis un peu de manière rapide. Le deuxième numéro, c'est Bout de ficelle sur les identités vestimentaires, la production textile, voilà. Troisième numéro, c'est Selle de cheval sur les coopérations interespèces. Je le dis, alors, c'est un peu synthétique, mais bon. Quatrième numéro, sorti l'année dernière, il y a un an et demi, on a pris 6 mois de retard. Cheval de course, donc qui est sur le jeu et la mise en jeu. Le pari, le jeu, la mise en jeu. Et notre cinquième numéro, là, qui arrive tout juste, qui est donc course à pied. On a travaillé sur les doubles sens de se sauver, fuir, s'échapper et se sauver soi-même. Mais là, je laisserai le soin à mes petits camarades ici d'aller plus loin. Voilà. Et aussi, pour ajouter quand même que maintenant, en fait, la revue papier est accompagnée d'un site internet qui est... Au départ de la revue, le site internet était quelque chose qui nous permettait de publier autrement nos papiers, mais on privilégiait toujours le papier par choix. dont on pourra discuter après si ça vous intéresse. Mais là maintenant c'est vrai qu'on donne aussi beaucoup plus autant d'importance au site internet qu'au papier. Donc le site internet est alimenté d'environ 2 à 3 articles par semaine quand on est en forme. C'est aussi un pendant, enfin la revue papier et le site internet fonctionnent ensemble. Je vous disais au début qu'on insistait sur le fait qu'on était un collectif. Nous sommes un collectif composé d'une vingtaine, une trentaine de personnes, ça dépend, ça a foutu en fonction des saisons. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est qu'on n'est pas des professionnels de la chose, qu'on est issus de plein de champs différents, on a des métiers très différents. Dans le social, dans le juridique, dans le voilà, on n'est pas du tout des professionnels de l'édition, ni de la littérature, ni du journalisme, pas tous. Et en fait, on s'est regroupés avec préoccupations communes qui étaient une adhésion à cette espèce de ligne éditoriale dont je vous parlais, et aussi sur le fait que on a en commun quand même un engagement militant assez plus ou moins fort, mais en tout cas cette préoccupation-là de s'engager pour différentes causes, donc sur différentes choses, via différents moyens. Mais en tout cas, il y a cette préoccupation-là quand même dans le collectif de Jeff Clark qui fait un peu du commun, comme on dit. Voilà, donc ça c'est nous et comment on compose. Alors c'est un collectif qui est très fluctuant et très ouvert aussi. Donc si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre le collectif Jeff Clark, n'hésitez pas, on aura du temps pour discuter après. Voilà, alors il faut aussi, c'est ce qui est important aussi de dire, c'est que cette revue est produite de manière bénévole. Malheureusement, on ne se paye pas. C'est pas un choix pour le coup, on le subit. Et voilà, donc on est tous bénévoles et on insiste aussi, on aime à dire que qui dit bénévolat donc, dit beaucoup, enfin là en l'occurrence, c'est beaucoup de temps passé sur la revue. Et les personnes qui ont beaucoup de temps passer pour la revue, qui peuvent passer ce temps-là, sont des personnes qui sont au chômage ou au RSA, et donc qui décident d'orienter leur activité quotidienne vers ce genre de production, qui ne sont pas rémunératrices. Du coup, Jeff Clark existe grâce au bénévolat, mais indirectement aussi grâce à ses aides sociales. Et voilà. Ça, c'est important à rappeler, par les temps qui courent. Donc ça, c'est sur la composition du collectif. Ensuite, on réfléchit très souvent à comment on s'organise entre nous pour que la production de ces choses reste une fête, reste joyeuse et que ça fonctionne bien de manière démocratique, que chacun puisse apporter son point de vue, soit entendu, sans discrimination, sans... Voilà. Donc ça, c'est des choses qui nous préoccupent beaucoup. Pour ça, on a mis en place des assemblées générales régulières auxquelles on tient beaucoup et des comités. Éditoriaux, des comités visuels et un groupe son pour produire chacun des contenus spécifiques de la revue. Une des spécificités de Jeff Clark par rapport je ne sais pas si c'est une des spécificités finalement, mais par rapport aux autres revues, c'est c'est que en fait on passe beaucoup de temps à lire les textes que vous allez peut-être lire dans nos numéros. Et ils sont généralement lus par 5, 6, 7 personnes qui donnent leur avis via des canaux différents. Et nous, notre enjeu, c'est que tous ces avis-là comptent pour produire des textes qui sont des textes signés par des auteurs, mais travaillés de manière... dont le travail éditorial et collectif, qui fait aussi que c'est... on est un collectif à porter cette revue. Les productions sont signées par des auteurs, mais sont des productions aussi collectives, quelque part, indirectement. Voilà, alors après, c'est sur les contributions, chacun peut contribuer, on fait souvent des appels publics à contribution. Donc voilà, c'est les membres de la revue qui participent, et les personnes extérieures, même qu'on ne connaît pas, ou bien nous, on va vers d'autres... on sollicite des personnes voilà, pour contribuer sur le sujet, sur le thème qu'on traite. Pour dire aussi que donc on a quasiment plus de subventions publiques. Du coup, cette revue peut être produite et tout ce qui se passe là se passe grâce notamment, depuis la fin des subventions à l'édition, depuis que la région est passée à droite, se passe beaucoup sur l'autofinancement et le fait que du coup, voilà, on fait des événements de soutien, ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qui fait aussi qu'on peut produire ce qu'on veut produire. Et je voulais juste quand même terminer. sur... pour un peu reprendre ce que dit notre édito général, notre édito de revue que vous avez trouvé dans le nouveau numéro, on finit cet édito en disant que voilà, Jeff Clark est arrivé, qu'elle vous tend heureuse course à pied là-bas. On est très heureux que vous soyez venus pour nous écouter et on est très heureux d'être là. Et je vais laisser le soin à mes camarades de poursuivre sur le numéro.
Oui, du coup, Alexandre nous a un peu expliqué que ce numéro, enfin, course à pied, donc on a décidé de parler de la fuite et du soin de soi, et vous êtes, peut-être vous vous demandez, mais pourquoi, enfin, c'est trop bizarre, comment vous êtes arrivé à ce double thème. Et en fait, on est parti de la question, enfin, en tout cas, ce qui nous, pendant les AG qui ont été nombreuses et longues, enfin, on se posait la question de quoi on veut parler. La question qui nous animait un peu, c'était qu'est-ce qui nous fait courir. Voilà, il y a des gens qui disent ben, on fait du jogging, on court pour prendre soin de soi, pour se sentir mieux dans sa peau, etc. Et d'autres tout de suite ont pensé ben non, mais on peut fuir les contrôleurs quand on n'a pas payé son ticket, ou on peut fuir un flic quand on n'a pas sa pièce d'identité sur soi, ou fuir son pays, etc. Et en fait, il y avait ces deux choses-là qui nous animaient un peu, et c'était difficilement tenable jusqu'à ce qu'on se dise, mais en fait, au final, est-ce qu'on n'est pas, enfin, on n'essaye pas à chaque fois de trouver une façon de se sauver. Se sauver dans le sens de se barrer, se tirer, et se sauver dans le sens de prendre soin de soi, enfin tout. Et au final, très vite, on s'est dit, mais qui est-ce qui a l'occasion de se soigner, de prendre soin de soi, de quelle manière, quelles sont les politiques de santé, par exemple, selon les pays, etc. Et au final, qui sont les personnes qui doivent parfois quitter, par exemple, leur pays pour trouver mieux ailleurs. Et c'était, du coup, très vite, on est arrivé à cet axe qui est devenu très important dans le numéro sur la migration. Et qu'on ne voulait pas réduire à cette question juste de la fuite, comme échapper à la guerre, à la misère, etc., ce qui est aussi vrai et très, très présent. On voulait aussi ouvrir cette idée-là à d'autres idées de fuite, d'évasion, d'échapper, comme nous tous. Enfin, on peut avoir envie de voyager, de rencontrer un autre pays et fuir notre quotidien ou quelque chose comme ça. Et donc la migration... on a essayé le plus possible de l'inscrire dans des démarches complexes et pas la réduire quand même à cette image qu'on nous envoie tout le temps du migrant. Voilà. Et donc dans ce numéro-là, on va trouver un texte de Bruno Le Dantec qui s'appelle Sauter les frontières, enfin Saute frontières, pardon, qui parle précisément de ça, précisément de ces façons différentes de faire communauté sur le trajet, par exemple. Et que là, quand on fait communauté, on est moins des misérables et beaucoup plus des personnes qui agissent ensemble et qui ont un peu de pouvoir sur leur destin. Et aussi sur ce fait juste de l'adolescent, en fait, qui s'ennuie dans sa ville, qui en a fait le tour et qui a envie, en fait, de découvrir autre chose, comme nous tous, quoi. Enfin, comme les Européens font Erasmus ou... Et là, je fais un peu un tour, en fait, des papiers qui concernent ce dossier-là de la migration pour présenter cette soirée. Et il y a aussi la philosophe Elsa Dorin qui a écrit un papier sur cette question de qui a le droit de se sauver, au final, enfin, qui a le droit de se défendre, sur cette frontière très fine entre les vies épargnées, donc a priori les nôtres, et les vies traquées, mais qui est de plus en plus fine, puisque en fait, au final, ces dispositifs sécuritaires nous rendent nous aussi de plus en plus en insécurité, au final, parce que notre vie est très souvent envahie par cette violence, par ces préoccupations-là. Et mélangée à ces textes de réflexion plus théoriques, il y a des textes de témoignages. On va trouver, par exemple... un texte de Conta Quinte qui raconte ses différentes stratégies pour ne pas être renvoyé de France. Enfin, il a une obligation de quitter le territoire. Il est en centre de rétention administrative. Donc on lui a pris un billet d'avion et il raconte les différentes stratégies des migrants dans les centres de rétention pour ne pas prendre son avion. Il y a des textes, du coup, sur un registre un tout petit peu différent, qui sont les textes qui viennent du master de création littéraire, parce que la revue a un partenariat avec le master de Paris 8, enfin le master de création littéraire de Paris 8, où deux personnes ont écrit à la fois un témoignage de deux migrantes géorgiennes de leur départ de Russie suite à la guerre, enfin le conflit en 2008 entre la Russie et la Géorgie. Elles partent de Russie et elles viennent en France, et donc c'est un peu leur parcours pour du combattant pour avoir leur papier. Mais ça, écrit par cette personne du master de création littéraire, et une fille de Palestine qui raconte quelque chose de beaucoup plus intime que ces histoires de, enfin, ces histoires de parcours finalement, de comment, enfin, c'est, mais c'est quelque chose de beaucoup plus intime qu'à cette séparation au final entre le monde qu'elle a laissé, le monde qu'elle a rencontré ici, ce qu'elle a construit ici, qui presque exclut ce qu'elle a laissé en Palestine, cette difficulté en fait au final. Et ça, pour le coup, enfin commune, je pense à toutes les personnes qui ont quitté leur pays pendant longtemps, cette difficulté à créer des ponts et à vivre entre deux lieux, quoi. Voilà. Donc c'est un peu les différents textes que vous trouverez dans le numéro qui ont trait à la migration et qui dialoguent peut-être de façon lointaine, peut-être insolente, avec la question du soin et le fitness ou des choses comme ça, mais c'est aussi le pari de se demander en fait, de tenir ça ensemble, quoi.
Alors juste pour préciser deux trois petites choses, moi il y a quelque chose que j'aime bien raconter souvent sur pourquoi tel mot de la comptine est devenu tel thème, c'est que en fait quand on le raconte, on raconte souvent en ou en nous, en disant nous, nous avons décidé de faire tenir ensemble et tout. Mais en fait, ça fait au moins deux numéros que c'est d'abord l'objet de tensions, pas forcément de grosses disputes, mais d'avis divergents à l'intérieur du collectif. C'est-à-dire que, comme on sait bien à l'avance qu'est-ce qu'il va y avoir dans la comptine, comme là par exemple on sait qu'il va y avoir pied à terre, forcément les gens commencent à projeter des choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, je vais à Lisbonne, là-bas, le Airbnb, c'est un enfer, tout ça, du coup, pied-à-terre, j'aimerais bien faire un truc. » Et du coup, si pied-à-terre, ça pouvait être sur ça, ça serait vachement bien, parce que comme ça, je pourrais faire un article. Et voilà, ce genre de truc, et du coup...
Qui t'a dit ça?
On se demande.
Je vais le citer ici, un ami. Alors voilà, des fois, il y a des avis divergents, et des fois, ça peut se régler par une simple exclusion, par exemple, au bout de ficelle. Il y avait des gens qui auraient bien aimé que le bout de ficelle, ce soit le système D, vous voyez, faire quelque chose avec des bouts de ficelle. Donc voilà, le système D, la débrouille. Et puis en fait, des gens étaient plus sur le côté littéral du textile, et du coup, ça a été plutôt sur le textile. Sur celle de cheval, il y a eu plutôt une sorte de consensus. Mais après, pour cheval de course...
Le cheval de cheval, c'est le seul thème qui a été le plus débattu.
Celle de cheval.
Et ça recommence. Ouais.
Ah voilà. Et c'est aussi ça, c'est que moi j'ai ma vision des discussions, parce que si ça va dans mon sens, j'ai l'impression que c'est consensuel.
On ne s'en sort pas.
Et cheval de course, par exemple, il y avait des gens qui étaient plus sur le pari, mais du coup qui avaient envie de dériver vers le risque, ou des gens qui étaient plus vers le jeu. On a essayé de le faire tenir ensemble. Alors je ne vais pas vous dire comment, mais je vais plus le faire pour le dernier numéro, du coup.
C'est plus facile.
Et pour le dernier numéro, justement, il y avait cette question de la fuite, il y avait cette question du soin, ou course à pied, jogging, du coup, développement personnel, soin. Et en fait, on a décidé de ne pas s'arrêter à cette opposition, et on trouvait qu'un dénominateur commun, c'était le corps, c'est que les deux parlaient du corps. C'est toujours souvent un corps qui fuit, parce que la course, elle est à pied, donc déjà, elle n'est pas forcément véhiculée, donc c'est le corps qui se met en mouvement. Et quand on fait du jogging, tout, c'est pour entretenir son corps. Donc le corps était au centre. Et ce corps, il avait des raisons de se mettre en mouvement. Et quand c'était pour la fuite, c'était des raisons exogènes. Enfin, voilà, on a peur de mourir, on a peur de la guerre, on a peur des raisons qui viennent de l'extérieur. Et puis pour le développement personnel, on a des fois l'impression que c'est des raisons qui viennent plus de l'intérieur de nous. On prend la décision de... Au final, on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça, puisqu'on répond aussi à des injonctions extérieures quand on se met à prendre soin de son corps. Et il y a aussi, oui, il y a aussi des... Et justement, comme elle l'a dit... Natalia, à l'instant, c'est que même quand on parle de fuite ou de migration, il y a aussi des désirs intérieurs, des choses qui viennent de l'intérieur de nous.
Et du coup, en fait, c'est un processus assez complexe d'opposition et comment après les choses arrivent à tenir ensemble. Et nous, on est toujours très contents quand on voit le numéro à la fin, parce que, enfin, pour l'instant, peut-être qu'à un moment, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait. Mais là, on est souvent très contents de voir que tout ça a un sens, et c'est normal, parce qu'on on a construit ça ensemble. Voilà, je voulais dire que c'est juste pas... C'est un résultat d'un processus collectif assez complexe et qui produit quelque chose de plus que la première idée qu'on pourrait faire du terme à l'origine. Et c'est juste une dernière chose que je voulais rajouter sur la ligne de Jeff Clark, où je sais pas, c'est toujours très difficile à définir. Bon, vous avez sans doute compris qu'on est plutôt classé à gauche ou à gauche, voilà. Mais à part ça, on a dit un peu quand on dit ça, mais pas tout à fait tout. Qu'est-ce que je voulais dire?
Oui, c'est ça.
C'est qu'en fait, dans la ligne, en fait, j'ai l'impression que ce qui est sûr, c'est que sur la plupart des phénomènes de société qu'on peut observer ou auxquels on a envie de s'attacher, on essaye sans cesse, je pense, d'essayer de réintroduire la complexité des phénomènes. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets sur lesquels on ne s'est pas arrêté à la première interprétation, même de gauche classique, qu'elle soit de droite ou de gauche, peu importe, mais une interprétation plus facile qu'on pourrait avoir d'un phénomène. Par exemple, pour Marabout, je sais pas, on pourrait suivre Marx et dire la religion, c'est l'option du peuple, voilà, c'est affaire classée, n'en parlons plus. Ou alors la rationalité scientifique a tout écrasé, on peut plus parler d'autre chose, etc. Donc on ne s'arrête pas là, on va un petit peu plus loin. Le développement personnel, par exemple, on pourrait s'arrêter à la critique de voilà, ça veut dire que tout le monde se ressent sur soi, c'est vraiment n'importe quoi, c'est la mort de la vie collective, etc. Non, nous, on n'a pas envie de s'arrêter là. On a envie d'aller voir, ben, est-ce qu'il y a peut-être des choses intéressantes là-dedans. C'est pas parce que ça parle des individus que ça n'a pas de rapport avec le réseau social. Bon, voilà, c'est juste pour cette précision, sur la ligne.
Je vais juste revenir sur les images que vous avez vues derrière nous, en fait, le diaporama pour situer un petit peu le gravure, dessin, photographie que vous venez de voir, pour vous donner quelques éléments. D'abord, donc c'est en lien avec ce qui vient d'être dit, en fait, c'est ces images qui, ou c'est des contributeurs qui viennent directement vers nous parce qu'ils ont envie, par rapport au numéro qui va sortir, de contribuer par des images qui résonnent avec les textes ou en tout cas par le thème et ce qui est engagé au niveau des discussions. Ou alors c'est aussi des images qu'on va chercher aussi en résonance avec ce qu'on travaille. Donc la première, le dessin que vous avez vu, c'est un dessin qui provient d'un ouvrage collectif, enfin c'est un collectif qui a créé un petit ouvrage qui crée des ateliers sur dans des centres d'hébergement et sur des camps de migrants. Et ça s'appelle Dessin sans papier, qui a été publié au début de cette année-là, uniquement avec en fait des soutiens. Et du coup, en réunissant tous les dessins, donc comme un médium de parole en fait, tous ces dessins pour en faire un ouvrage qui relate un petit peu la parole des migrants, ce qu'ils vivent et leur trajectoire. Ensuite, il y a eu, si on passe dans le sens inverse du diaporama, il y a eu une série de photographies qui étaient un petit peu dures, mais c'était un choix aussi par rapport à la thématique de la migration, de vous les passer. Du coup, c'était l'enterrement de Reza, de Livia Saavedra, une journaliste qui a été envoyée par une ONG à Waha, W-A-H-A International, donc en Grèce, pour faire un reportage sur les conditions d'accueil des migrants. Donc la scène se passe sur l'île de, je ne sais pas comment on la prononce, Chios ou Chios.
Chios.
Et elle a rencontré cette famille, du coup, qui finalement avait migré, qui était à bord d'un bateau provenant de Turquie. Cette île est à 11 km des côtes turques. Et du coup, cette famille avait perdu donc un fils Reza de 2 ans à bord de ce navire. Du coup, c'était aussi donc toutes les conditions après la mort de cet enfant avec cette famille qui s'est retrouvée sur cette île-là. Voilà. Et là, pour finir, toute la première série, ce sont des gravures qui ont été réalisées dans le cadre de l'atelier autonome du livre de Mossette, c'est dans les Pyrénées-Orientales. là où justement Youssif Aliem était en résidence l'année passée. En fait, ce sont essentiellement deux personnes, mais reliées à des collectifs autour du travail avec des migrants, sur des centres d'hébergement et autres plus largement, aussi sur des situations d'enfermement, donc ils créent des ateliers de mise en image. Youssif a travaillé à partir de son récit sur un atelier collectif pour mettre en image son propre récit dont il vous parlera tout à l'heure. Voilà.
Bonsoir. Alors, moi, je suis Brigitte et j'ai la lourde tâche maintenant de passer au vif du sujet et de vous présenter un petit peu les interventions de ce soir. Donc, nous avons la chance effectivement de compter avec Youssif, qui va un petit peu nous parler de son expérience personnelle en tant qu'artiste soudanais qui est présent en France depuis maintenant quelques années. Puis nous avons la chance aussi d'accueillir Marielle Massé qui a bien voulu nous accompagner au dernier moment ce soir et qui va nous parler peut-être de la difficulté d'écrire sur un sujet comme celui-ci. Moi, je vais essayer en très peu de temps de vous faire un petit panorama de l'évolution toujours plus négative des politiques migratoires européennes. Je viens du réseau Migre Europe, que vous connaissez peut-être, qui s'attache à faire du décryptage justement de ces politiques migratoires européennes. Et je collabore avec Jeff Clark avec grand plaisir. Je voudrais, avant peut-être de commencer, rebondir sur le paysage sonore qui nous a été passé, et notamment sur le témoignage d'une dame qui nous dit « c'est quand même incroyable, l'histoire se répète, le cycle se répète ». On traite les migrants comme les Espagnols de 1939. Eh bien, j'aimerais vous dire, on parle beaucoup de lieux d'enfermement, de centres de rétention, et j'aimerais convoquer l'histoire, car parfois c'est important, et nous rappeler à tous que le centre de rétention de Rivesaltes, dans le sud de la France, est le premier camp qui a été construit pour, à l'époque, parquer les Espagnols, les Républicains qui échappaient au franquisme et qui cherchaient une vie meilleure en France. Et ce qu'ils y ont trouvé, c'est le camp. À l'époque, il n'était pas encore un centre de rétention et qui a fini par le devenir, enfermé pour enfermer. Voilà, donc l'Europe, vous le savez, elle mène des politiques répressives et sécuritaires depuis plus de 20 ans et l'histoire se répète effectivement. Ces politiques, elles ont été pensées dans les années 80, elles ont été mises en place dans les années 90 et elles ont progressivement restreint le champ de la migration régulière et elles se sont fixées comme absolue priorité la lutte contre l'immigration dite clandestine. Et du coup, l'Union européenne et ses États membres vont pour cela développer des dispositifs législatifs, administratifs, politiques, tous les uns après les autres, plus coercitifs. Dans un premier temps, les voies légales d'entrée sur le territoire européen, elles vont être réduites par l'intermédiaire de politiques de visa et d'asile qui sont de plus en plus restrictives. Enfin, la conséquence est clairement d'empêcher les gens d'entrer, de résider légalement sur le territoire. On parle beaucoup d'immigration clandestine, et je pense qu'il faudrait parler d'immigration clandestinisée, car c'est parce que les contrôles et les moyens de surveillance et de blocage sont de plus en plus développés et de plus en plus contraignants que ces personnes sont obligées de prendre d'autres routes parce qu'elles ne peuvent pas emprunter des voies légales pour entrer sur notre territoire. J'aimerais pointer trois phénomènes qui me semblent être représentatifs de cette évolution des politiques migratoires. L'enfermement qui s'accrue des personnes en migration, la militarisation de nos frontières et l'externalisation des politiques anti-migratoires. Donc l'enfermement, depuis les années 90, les autorités européennes elles y recourent de plus en plus. Ça devient le mode de gestion privilégié des migrations. On enferme dans des centres fermés, dans des centres de rétention, dans des zones d'attente, dans des commissariats. On enferme aussi dans ce qui nous est présenté comme des lieux d'accueil. C'est une tendance actuellement, il y a un flou terrible entre la mise sous contrôle, la détention et l'accueil, qui devrait être une mise à l'abri. On nous vend la mise à l'abri alors qu'en fait c'est de la mise sous contrôle. Je pense notamment aux CAO, les fameux centres d'accueil et d'orientation qui sont nés après l'énième démantèlement de la jungle de Calais et dont vous avez sans doute entendu parler et qui sont utilisés également comme une nouvelle logique de dispersion des migrants pour ne pas qu'ils soient trop visibles sur le territoire et qu'ils gênent donc les bons citoyens. Une autre tendance liée à l'enfermement, c'est l'enfermement de plus en plus à l'extérieur du territoire européen, financé et encouragé par l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle donc l'externalisation. J'aimerais juste vous dire que la dernière tendance face à l'enfermement, c'est les hotspots. Les hotspots dont vous avez peut-être entendu parler, qui depuis 2015 foisonnent au sud de l'Italie et sur les îles grecques. Tu en as parlé, tu as parlé du camp de Chios, le fameux et tristement célèbre camp de Moria, qui est absolument atroce. Je vous invite tous à taper Moria sur le moteur de recherche de votre choix. Et vous verrez des images assez terribles qui sont une réalité. J'aimerais également rappeler que sur les îles grecques, il y a l'impossibilité de se déplacer vers la péninsule et que depuis 2015, ça fait donc 3 ans maintenant, environ 13 000 personnes sont confinées dans l'indifférence générale. Ce sont des demandeurs d'asile qui ne peuvent pas passer, qui ne peuvent pas circuler. Dernier dispositif dont on nous parle, dont nous a parlé l'Union européenne le 12 septembre, c'est les centres contrôlés. Alors on aimerait bien savoir ce que c'est les centres contrôlés, apparemment c'est des hotspots, des clignons, voilà. La militarisation des frontières extérieures, elle passe par Frontex. Vous connaissez Frontex, c'est l'agence européenne de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. Elle est de plus en plus puissante, elle agit sans beaucoup de contrôle démocratique. Sachez qu'elle a commencé sa tâche en 2004. En 2006, elle avait 19 millions d'euros de budget. On annonce pour l'année prochaine 1,3 milliard. Donc vous voyez, c'est la crise au niveau Union européenne, la crise économique. Frontex ne connaît pas la crise. On nous a également mis en 2015 des opérations militaires, navales, dans nos eaux territoriales. Je pense à EUNAVFOR Med en Méditerranée, qui est devenue Sophia. Vous avez peut-être entendu parler de l'opération Sophia, dont le but est de lutter contre les passeurs. C'est une opération d'intelligence. En réalité, elle est là pour accompagner Frontex et faire du blocage et de la mise à distance des personnes en migration. Étant donné qu'elle a modifié les routes migratoires, comme souvent les opérations de contrôle, puisqu'elle ne permettait plus de passer par la Méditerranée, elle a de nouveau déplacé les mouvements migratoires vers la mer Égée. Et en 2016, on s'est dit que c'était bien de faire intervenir l'OTAN en mer Égée, à côté de Frontex également, pour pouvoir bloquer les mouvements migratoires. En mettant l'OTAN dans nos eaux européennes pour contrôler les migrations, on érige la migration au rang de menace et on l'intègre dans la défense européenne et internationale. Et enfin, l'externalisation, qui est sans doute un des aspects les plus préoccupants, puisque vous le savez, l'externalisation, elle naît il y a longtemps déjà, mais en 2004, elle s'est assumée, décomplexée, comme beaucoup de choses dégueulasses qui se passent au niveau européen. Et au nom d'un hypocrite et inéquitable partage du fardeau, elle est devenue un des axes forts des politiques migratoires. Alors on l'externalise en général vers les pays les moins respectueux des droits de l'homme, les moins regardants pour faire le sale boulot que ne peut pas se permettre de faire l'Union européenne puisqu'elle doit quand même encore respecter les conventions internationales qu'elle a ratifiées, même si elle essaye de plus en plus de contourner le droit et les droits. Alors là, en ce moment, on négocie avec le Niger pour qu'il verrouille les frontières sud, c'est-à-dire qu'il verrouille l'Afrique et en fait qu'il empêche les candidats à l'émigration d'atteindre au final l'Europe. On négocie avec la Libye qui est redevenue un partenaire privilégié, vous savez, ce pays chaotique où on est intervenu en 2014. Alors, on négocie avec le Soudan, grand pays défenseur des droits de l'homme, notoirement connu, n'est-ce pas ? Voilà. Le but de l'externalisation, c'est clairement de délocaliser les contrôles migratoires et se déresponsabiliser de la sous-traitance de ces contrôles migratoires à des pays qui ne sont pas connus pour être démocratiques. L'expérience européenne de ces 20 dernières années, elle illustre les constats des différents chercheurs, des différentes ONG, des différents collectifs qui se forment et qui nous montre qu'aucun de ces dispositifs n'est efficace, évidemment, pour tarir les mouvements migratoires, qui est un phénomène, comme vous le savez, qui est historiquement lié à l'histoire du monde et qui ne va pas s'arrêter maintenant. On sait en revanche que tous ces dispositifs, ils créent de la violation des droits, c'est sans doute leur but en réalité, à commencer bien sûr par la liberté de circulation des personnes, dont on nous rappelle, donc je vous rappelle, que les textes internationaux le mettre en avant, et notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Je passe la parole à Youssif, qui va nous parler plus particulièrement de son expérience personnelle, de son vécu en tant qu'exilé, soudanais, et à quel point ça a été un choc pour lui de se voir confronté au non-accueil de nos territoires européens, et en particulier celui de la France. il va avec Céline à deux voix nous raconter à travers un poème son expérience, son vécu. Il va nous parler en arabe et Céline va nous traduire en français.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Youssef Aliem, je suis soudanais. Je suis très content, je suis très heureux d'être là. Et merci beaucoup à Jeff Clark. Et bien sûr aussi merci à l'atelier d'autonomie du livre, là où j'ai fait nos résidences à Mosset. C'est un petit village de 300 personnes, mais qui est très sympa. Et merci beaucoup aussi à la médiathèque François Saguin. C'est ça.
Moi, j'ai parti de mon pays en octobre 2014. Tu traverses le Libye et après, bien sûr, le cimetière, le grand cimetière de les réfugiés, la Méditerranée. Et après, depuis l'Italie, en France. Avant que je parle, à mon avis, il y a deux personnes, il y a deux types de gens. Il y a les gens qui pensent pourquoi ils viennent chez nous. Il y a les gens aussi qui pensent pourquoi ils fuient leur pays. Et c'est ça, le plus important, pourquoi les gens ils fuient leur pays. Bien sûr, il y a une raison pour laquelle moi j'ai laissé ma famille, j'ai pas vu ma famille depuis 4 ans, 4 ans et demi, et je ne peux pas le voir. Et on parle sur le parcours. Donc je traverse le Soudan par le Libye. Et j'ai resté allé en Libye, j'ai resté pour près de 8 mois. J'ai vu que un de les pires cauchemars de ma vie. Et c'était pas mon but d'aller en Europe avant. Mais quand c'était trop difficile de vivre en Libye, j'ai continué. Et ça aussi, c'est un peu difficile. Donc. Non. Moi, j'étais entre la vie ou la mort. Je suis désolé parce que je ne parle pas bien français. Et la première fois qu'on était le sud de Libye, on attend le passeur. Et il y avait un moment où on était obligé de boire notre piste de vie. Ça, c'était le premier. Et le deuxième moment, quand j'étais à Benghazi, c'était à l'époque de la guerre civile, et je portais un de mon proche, un de mes proches là-bas. Donc, après, j'ai continué. Le troisième, c'était dans la Méditerranée, là qu'on a abordé pendant 3 jours. Et après, on était sauvés par un bateau irlandais, je ne me rappelle plus. Bon. Et pourquoi j'écris le blog? J'écris le blog parce que j'ai pas vu le traitement que. C'est pas que je veux que je mette comme un humain. Comme un être humain, qu'il faut me traiter comme un humain. Pour ça, j'ai commencé d'écrire le blog, qui c'était le 19 juillet 2015, parce que moi je suis arrivé ici en juin 2015, le 1er juin 2015. Et c'est juste pour faire passer le message pour les gens, pour peut-être changer quelques mentalités, pour changer quelques avis pour les gens, pour dire que nous on n'est pas le diable, mais nous aussi, ni les anges, nous comme vous, on mange le même truc, bon, bref, mais on est les mêmes comment ça s'appelle, trop mal, tous le même. Et voilà, je parle très vite sur mon parcours. Il y a un blog en ligne, c'est le voyage de la mort. Et aussi, par rapport à l'atelier des, l'atelier autonome du livre, on a fait deux jours d'atelier de graveur avec les habitants de la région. Et là aussi, où je commençais d'écrire le texte que je vais lire, qui s'appelle Moi et Marianne, que j'ai commencé d'écrire là-bas, après j'ai fini ici. Donc il a beaucoup de pyramides orientales. Donc le texte, c'est comme une histoire d'amour et, entre moi et la République ou France. Et en même temps, elle parle de l'autre. L'autre réfugié ou l'autre migrant. Moi, je ne fais pas la différence entre le migrant et les réfugiés, et le migrant climatique, les réfugiés politiques. Bon, ça, c'est mon avis. Donc, on va choisir quelques extraits. C'est juste quelques extraits. Peut-être, je ne sais pas.
Tu me menaces de sanctions. De sanctions.
تفعلين في وجهي أصبع.
Tu me pointes du doigt.
تهددين وتتوعدين.
Tu me menaces et tu me promets.
بأنك سوف بي تفعلين.
Qu'un jour, un jour, tu me feras des choses.
تقومين وتقعدين.
Tu te lèves et tu te rassois.
تنشرين الغضب أشباحا.
Tu répands ta colère comme des fantômes.
ولا يهمك انكماش جسدي.
Peu importe pour toi que mon corps se recroqueville.
أو الذعر في عيني.
Et que je sois terrifié. Lorsque tu dis, va-t'en, je ne veux pas de toi maintenant. Je t'ai demandé, madame, quand veux-tu de moi? Avec colère et insistance. Tu me tends la main pour me pincer. Et tu m'empoisonnes d'un seul de tes mots. Et tu m'infliges des sanctions de toutes sortes. Et tu me jettes une mèche pour me brûler. Et avec un point de fer, tu massacres mes rêves. Tu les anéantis, puis tu les pétris de nouveau à ta façon. Tu fais naître en moi un volcan. Que tu éteins en une seconde. Une mer apparaît, tant mes larmes sont abondantes. Que tu effaces de tes mains. Tu me nommes d'un mot. Que tu supprimes à chacune de tes colères. Et puis, quand tu me tiens la main jusqu'à me faire mal, écris ou n'écris pas. Signe ou ne signe pas. Car ton existence m'indiffère. C'est là que j'ai compris. Que je dois être à ton service et que tu me convoques à ta guise. Ma bien-aimée, c'est ainsi que tu es. Mais moi, je suis devenu rien, sans adresse ni preuve.
لا إنسان ولا زمان.
Ni un humain ni temporalité.
باختصار أصبحت لا مكان لي ولا وطن.
Je suis devenu apatride.
أنا سفينة ببحر الجراح لا تملك مرساه.
Je suis une barque dans une mer de blessures, une barque qui ne possède aucune encre.
تاهت بين شطوط الحياة وضاعت في بؤر الألم.
Elle s'est perdue parmi les rivages de la vie et a fini par s'égarer parmi les abysses de la douleur.
تعبت.
Je suis fatigué.
لم أعد أعرف من أنا.
Je ne sais plus qui je suis.
وقفت أمام مرآتي.
Je me suis mis debout face à mon miroir.
وقررت الآتي.
J'ai décidé donc.
سأشطب شهادة ميلادي.
D'effacer mon acte de naissance.
وسأشطب اسمي ومتعلقاتي.
D'effacer mon nom et de jeter mes papiers.
عزيزتي.
Ma bien-aimée.
ليس عدلا بعدما عبرت كل الحدود الوهمية.
Ce n'est pas juste. Après avoir traversé toutes les frontières et rêvé d'humanité, tu viens me blesser avec ta violence et qu'avec force tu me jettes dans un cachot. Pourquoi? Tout ce que je t'ai apporté est bien plus beau.
مما تفعلين به الآن وترفضيني.
Après tout ce que tu m'as fait subir, aujourd'hui tu me rejettes.
فإن جاريتك.
Si j'acquiesce.
فبكل غضب تذليني.
Tu m'humilies avec ta colère.
وإن اعترفت لك بالحقيقة.
Et si je dis la vérité.
جعلت مني شيطانا وتجاهلتيني.
Tu fais de moi le diable et tu m'ignores.
أنا يا سيدتي مجرد إنسان.
Moi, chère madame, je ne suis qu'un être humain.
لست بشيطان ولا ملاك.
Je ne suis ni diable ni ange.
إنها متاهتك وأنت بها حصرتيني.
Ce sont tes dédales et tu cherches à me perdre.
Merci.
Merci.
Alors moi, j'interviens au titre de la littérature. Donc je suis très heureuse qu'on ait entendu ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne maintient pas dans la situation du témoignage en lui demandant simplement d'être là pour faire la partie du témoin, celui qui va nous livrer le récit d'une expérience à laquelle on est plus ou moins préparé et qu'on va écouter avec une déférence qui est aussi un peu trouble. Parce que un témoin, ça peut être lui, puis ça peut être un autre, et puis alors qu'en fait, il a livré autre chose qu'un témoignage, qui est tout ce travail de poème et tout ce travail pour se relier autrement à ce pays qui accueille si mal. Et alors, donc j'ai bien compris, c'est la bien-aimée, c'est la République française.
Oui, c'est Marianne.
Ouais. Et ça m'a fait penser à quelque chose qui m'avait beaucoup touchée en prenant connaissance de textes sur ce que Sophie Vanish a appelé l'intelligence politique de la Révolution française, qui était que parmi les réinventions proposées par des révolutionnaires, des théoriciens révolutionnaires, il y avait l'idée de définir la patrie non pas comme le lieu d'où l'on vient, mais comme l'espace où pourrait s'éprouver l'amour de la loi. L'espace où on pourrait être attaché à nos lois collectives par un lien non pas seulement d'acquiescement ou d'obéissance, mais par un lien qui serait un lien d'amour. Donc on en est fort loin. Mais cette adresse-là, elle m'a rappelé ça. Alors, oui, moi, on m'a proposé d'être ici pour parler de ce qui se tente aujourd'hui parmi les voies littéraires, pour tenter d'être présent, d'être au rendez-vous de notre histoire, un peu, c'est-à-dire d'essayer de se mettre à la hauteur dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on essaye d'écrire, d'essayer de se mettre à la hauteur de ce que l'on vit tous, de près ou de loin, autour de la question de la dite crise migratoire. Alors, avant de vous parler de ce que moi j'ai tenté, je voudrais vous lire un petit texte d'Olivier Cadiot, que vous connaissez peut-être, un écrivain, un poète. Un texte qui parle de la difficulté qu'il y a à parler et je vous le lis et puis après j'en dirai deux, trois mots. C'est un chapitre d'un livre qui porte un titre étrange, Histoire de la littérature récente, tome 2, et en fait c'est une série de petits fragments sur le monde d'aujourd'hui. Des gens traversent la mer à 50 dans un zodiaque. On va les faire parler, on va les représenter. Des acteurs rejouent les récits des survivants. Quelquefois, ils le font à la première personne et réussissent à transmettre une partie de la douleur. C'est souvent très proche, heureusement. Quelquefois trop profond, pas assez en surface. On s'enfonce dans l'humain comme dans une caverne. Ça défigure, il n'y a plus personne. On ne les traduit pas de leur langue maternelle. On les oblige à parler la nôtre et on fait entendre respectueusement leurs erreurs. On transcrit les bégaiements, les souffles, les rythmiques, on fait les chamans sur scène, on pousse des cris, on est échevelé au milieu des tempêtes, ou le contraire, il y a un silence de mort. On oublie les immenses circonvolutions de chacun au milieu de sa douleur. La question qui restera entière est la suivante, faut-il un style pour dire ça, pour refaire connaissance? Un style n'est-ce pas trop littéraire, comme on dirait trop chauffagiste ou trop spéciale. Alors si on tient au mot, disons un style avant, pas après, ce n'est pas le moment où l'on viendrait polir sa phrase, comme un bon marbrier, ce serait au début, un style d'être, une manière d'être à plusieurs tout seul, une manière de s'engager dans l'affaire dès la première ligne. Il faudrait au moins des mots triples, trois adjectifs pour chaque mot. Rajoutez des adverbes, ouvrez des incises, ne faites pas des poèmes sur eux, ni minimalistes, ni répétitifs, ne dites pas « je » à leur place, arrêtez l'art, parlez chiffres, faites des plans de frontières, des cartes de l'argent qui transite, des pourcentages de haine, des plans de village, déchiffrez des codex, enregistrez ces naufragés dans leur langue et traduisez, ne les faites pas bégayer dans la vôtre, traduisez, interprétez, comme une parole aussi pleine de sous-entendus et de surentendus que la vôtre. Envoyez des exégètes en mission sur les phrases d'aujourd'hui. Décelez le plus haut point de complexité de chacun. C'était ce que disait Natalia, je crois. Décelez le plus haut point de complexité de chacun et de chaque situation. Placez des micros pour entendre derrière les murs. Envoyez la troupe, celle des philosophes, traducteurs, médecins, anthropologues, économistes, historiens activistes et personnes sans profession au chevet de ces paroles, artistes s'abstenir. Artistes s'abstenir. Moi, c'est un texte qui m'a beaucoup impressionnée parce que je trouve qu'il dit très bien tous les écueils que peut rencontrer une parole qui chercherait, c'est des choses bien connues, à parler à la place d'eux, mais aussi à penser avoir tout fait quand on a donné la parole. Comme si chacun était assigné à une place, voilà, le témoin. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que dans un texte comme celui-là, voilà, artiste s'abstenir, envoyer la troupe de ceux qui pourront faire de la connaissance avec ça, les économistes, les médecins, les historiens, les anthropologues. Cadio, il ne cherche pas à faire taire, il cherche à suggérer que quiconque écrit sur cette question aujourd'hui doit être convaincu que jamais il ne parlera bien, jamais il n'aura bien parlé, et que toute la tâche de l'écrivain, c'est de se tenir dans cette situation impossible où en fait il sait qu'il ne pourra jamais bien parler, mais il tente de s'approcher toujours un peu plus. Et j'ai beaucoup aimé cette expression, refaire connaissance, parce que je pense que c'est vraiment l'enjeu. Refaire connaissance, ça veut dire d'abord refaire de la connaissance, c'est-à-dire faire du savoir, c'est-à-dire ne pas se rapporter à ces situations simplement par les maillons de notre pitié, de nos émotions, de nos affects, comme si on était riche en affects et qu'on viendrait faire l'aumône d'un affect au réel et à l'histoire, mais faire de la connaissance, s'informer, enfin écouter tout ce qu'on vient d'entendre. Et puis faire connaissance ou refaire connaissance, ça veut dire aussi s'approcher et tenter des liens. Tenter des liens, enfin, c'est ce que disait Youssef tout à l'heure en disant « oui, tous pareils ». Enfin, savoir qu'on est tous des individus avec leur plus haut point de complexité, que par des morceaux de nous-mêmes on se relie, que par d'autres morceaux de nous-mêmes on diffère et ô combien. Mais que justement, tout travail politique, c'est de tenter de se relier et de se relier autrement. Et pas toujours voilà, dans les mêmes positions à la fois de parole, de visibilité ou d'invisibilité. Donc voilà, ça m'a plu, cette mise en garde de Cadio, artiste s'abstenir, qui est une façon, je répète, non pas de faire taire les artistes et les écrivains, mais d'exiger d'eux qu'ils sachent qui pourront jamais se reposer dans une situation de parole juste. Et donc, moi, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire aussi donc dans ce petit livre qui s'appelle « Sidérer, considérer ». En fait, tout est dans le titre. J'ai essayé à travers, même si c'est très court comme bouquin, mais un lent cheminement à l'intérieur des perceptions, à l'intérieur des descriptions. J'ai essayé de faire tourner, en quelque sorte, d'une émotion politique à une autre émotion politique. La première, c'est la sidération, et c'est ce qui saisit le plus facilement devant les situations humaines, sociales et politiques les plus douloureuses et les plus difficiles. On est sidéré, on est médusé, on est arrêté. Et j'ai essayé de faire tourner cette, euh, cette émotion politique-là pour l'ouvrir à quelque chose qui m'a paru beaucoup plus actif, beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus pertinent aujourd'hui, qui serait l'émotion de la considération, c'est-à-dire le désir d'être attentif, de s'arrêter, de faire attention, de faire connaissance et de refaire connaissance. Et donc voilà, c'est un travail à la fois à l'intérieur de la langue et à l'intérieur de la description des états de réalité. C'est un tout petit travail, c'est même pas appuyé sur des témoignages, c'est-à-dire que c'est pas un de ces livres où tout à coup le monde vient résonner et nous apprendre quelque chose qu'on ne savait absolument pas, mais c'est un travail qui essaye de faire le chemin à l'intérieur de nous-mêmes, en fait, en tant qu'être dont la première responsabilité est celle des perceptions dont ils seront capables. Voilà, je m'arrête là peut-être.
Juste peut-être un tout petit mot pour dire que parmi les invités, Marielle Massé, par exemple, n'est pas présente dans le numéro. Mais c'est une chose que souvent, c'est quelque chose qu'on a envie de faire dans Jeff Clack, c'est que dans une présentation de la revue, on pourrait juste déployer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en tout cas, moi, une des choses qui me plaît, c'est de penser à ces présentations comme un prolongement de la revue. Et du coup, l'intervention de ce soir pourrait être comme un article supplémentaire à la revue. Voilà, ça m'intéresse qu'on ne soit pas juste dans la promotion et dans le fait de redire ce qui est déjà dans le numéro et que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir en le lisant, mais c'est de toujours continuer le numéro.
Allez. Je veux bien dire un truc un peu de lexicologue sur le numéro « Se sauver ». C'est formidable d'avoir construit ce nœud, justement, entre se tirer. Et c'est lui, ouais, bravo. Mais peut-être qu'on peut ajouter quelque chose, c'est que se sauver soi-même, c'est pas prendre soin, c'est rester entier. Et ça, c'est un aspect intéressant peut-être qui permet aussi de donner du poids, parce qu'il y a dans le numéro, il y a un entretien passionnant avec un spécialiste du développement personnel. Et c'est un entretien passionnant parce que ça oblige à prendre un petit peu au sérieux cette littérature de gare, pour de bon, et l'espèce d'élan qui peut nous saisir quand on espère trouver dans un livre tout de même quelques issues. Et donc il y a cet aspect-là, l'aspect du soin, mais dans le mot « sauver », dans le mot « sauf », hein, ce qui peut être intéressant, c'est cette idée-là, c'est rester entier. Et rester entier politiquement, je trouve que c'est assez intéressant. Il y a un poète italien qui, en réponse à la question dont tu dis qu'elle t'est posée, par vous, qu'est-ce que vous venez faire, qu'est-ce que vous venez chercher. Et lui, le poète, il avait répondu, mais moi j'ai une réponse simple, ils viennent tout simplement pour nous sauver. Et ils viennent pour que quelque chose de la communauté reste entier. Précisément parce qu'il y a plein d'autres. Non seulement inattendus, mais dont on ne voulait pas, font irruption et font interruption dans cette communauté. Mais il s'agit de rester entier, et pas juste de prendre soin de soi. C'est plus radical que ça, en fait, se sauver. Ouais.